Alors, je vais encore une fois vous faire un truc pas très classique, pas tout à fait très biblique, mais c'est pas en désaccord avec la Bible non plus, et c'est quelque chose que j'ai à cœur depuis longtemps. Puis j'ai eu un encouragement pendant ma formation, une petite phrase qui est sortie, me dit « c'est marrant, je voulais faire ça à la prédication, alors je me suis dit « je vais le faire ». Comme quoi, les formations, ça sert à quelque chose. Mais donc c'est en fait, c'est vraiment pas de moi, ça vient de ce livre-là, pour ceux qui connaissent. Ça s'appelle « Les langages de l'amour », donc les actes qui disent « je t'aime », et c'est de Gary Chapman. C'est un monsieur qui est maintenant très très vieux, il a plus de 80 ans, mais qui a été conseiller conjugal aux États-Unis. Et donc il a tiré de son expérience tout un tas de choses, en fait, et qui sont assez intéressantes. Nous, on nous l'a offert, ou on se l'est offert, je sais plus. Pas longtemps avant de se marier avec Maï, et on a eu vraiment des choses extrêmement... C'est des idées très très simples, mais qu'on peut mettre très facilement en application et qui font beaucoup de bien. Et je me suis dit, c'est bon. C'est vrai qu'à la base, c'est fait pour les couples, forcément. Mais en fait, il y a toute une déclinaison. Il a écrit pas mal de livres. Ça s'applique aussi aux enfants, ça s'applique à nos amis. Et on verra aussi à l'occasion que ça s'applique aussi entre Dieu et nous, en fait, l'idée qu'il a tirée, ce monsieur. Et donc là, je vais parler forcément des couples. Donc je me suis dit, mince, ça me fait bizarre d'en parler. On est peut-être le couple le plus jeune de l'Église, mais bon, c'est vraiment des idées qui étaient extrêmement bénéfiques pour nous. Et je pense qu'on voit tellement le malin qui tire sur les familles, qui tire sur les couples, les enfants. Mais si ces idées-là nous ont fait du bien, et il faut les partager. Donc voilà, c'est pas forcément super biblique, il n'y a pas beaucoup de références, mais... En fait, ce bouquin, il est fait pour ça en même temps. C'est quelque chose que nous, on a offert à tous les couples qui se sont mariés après nous. En fait, on leur a offert, on s'est dit, ben, ça pourra vous faire du bien, et lisez-le. Et c'est fait... En fait, on n'a pas de mention du Seigneur au travers du bouquin, sauf vraiment à la fin. Donc pendant tout le long, et pourtant, quand on lit le livre, on se dit, ah, c'est marrant, ça a une saveur particulière, mais et pourtant, il parle pas de chrétien, tout ça, et... Et quand on arrive à la fin, il donne quand même quelques idées. Il dit, bon, je m'adresse aux chrétiens quand même parce que j'en suis un et il y a des choses particulières pour eux. Mais globalement, c'est quelque chose qu'on peut donner entre toutes les mains sans que les gens, dès le départ, ils voient Dieu. Puis, oh non, ça j'en veux pas. Donc ça permet d'appâter, si on veut. Et après, à la fin, il y a quand même quelque chose. Il annonce quand même l'évangile. Mais c'est quelque chose d'assez soft à la base. Donc j'ai pas besoin de vous convaincre, je pense que l'amour, c'est quelque chose qui est le plus important. On voit déjà simplement que Dieu lui-même, il est amour, et c'est sa nature d'aimer. Notre importance pour nous, on le voit dans Jean 13 verset 35. C'est à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Autant l'amour, c'est la marque de fabrique de Dieu, ça doit devenir notre marque de fabrique à nous. Si on voit l'amour en nous, on sait que ça vient de Dieu. Et dans 1 Corinthiens 13, ça aussi c'est très connu, « Maintenant donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. » Et donc dans ce livre-là, donc ça parle que d'amour forcément, mais il y a globalement deux idées générales. La première, c'est qu'on a tous, plus ou moins, un réservoir d'amour en nous. Et quand ce réservoir est plein, on a de quoi donner aux autres. Quand ce réservoir est vide, on n'a plus rien à donner aux autres. Ça, c'est une première idée. Et donc, si quelqu'un a son réservoir vide, on ne peut pas lui demander de nous aimer, on ne peut pas lui demander de nous apporter quelque chose. Il aura extrêmement du mal parce que c'est vide à l'intérieur. Et donc la première chose à faire, si on veut que quelqu'un nous exprime de l'amour, ou exprime pas forcément à nous, mais c'est de remplir son réservoir avec l'amour que nous on a. Donc il y a quand même un principe qui est tout à fait biblique, qui dit qu'on peut pas aimer si Dieu nous a pas aimé le premier. C'est lui qui nous aime, c'est lui qui remplit notre réservoir, et après on peut donner aux autres de l'amour. Donc ça, c'est le premier principe. Et le deuxième, en fait, qui est décliné dans le livre, c'est qu'on peut donner les façons d'aimer. Elles se classent en 5 catégories. Donc je les donnerai après. Et donc il explique ce monsieur. Il y a énormément d'exemples dans le bouquin. Et du coup, ça se lit très très bien parce qu'on passe d'expérience en expérience. Il raconte tout ce qu'il a pu voir dans sa vie. Donc vraiment, on en laissera un exemplaire pour l'Église. Ça se lit vraiment super bien, donc je vous le conseille, je peux que vous le conseiller. On pourra pas lire tous les exemples ici, forcément, mais donc à partir de tous les exemples, il a décliné en 5 catégories, 5 façons d'exprimer l'amour. Et globalement, il explique que, ben, il y a, comme avec le langage naturel, en fait, il y a une façon d'exprimer l'amour qui nous est propre et qui nous va mieux. Et donc je vais vous lire après des passages. Je suis pas forcément clair, mais si par exemple on exprime mieux l'amour par les paroles valorisantes, eh ben on le recevra souvent mieux sous cette forme-là aussi. Et donc quelqu'un qui va nous exprimer son amour par des gestes, par exemple, eh ben ça passera moins parce que c'est pas notre façon à nous de nous exprimer. Donc je sais pas si vous voyez à peu près l'idée. Et donc on a chacun un langage particulier. Et donc c'est utile à savoir pour les autres, parce qu'ils savent comment exprimer leur amour envers nous pour qu'on le reçoive au mieux. Et c'est utile aussi, en fait, à nous de savoir pour les autres, pour on sait quelle est la meilleure façon d'exprimer notre amour. Et donc ça paraît un peu arbitraire, ces 5 catégories, mais finalement, quand on regarde autour de nous, qu'on essaye d'observer les gens, on s'aperçoit qu'on les retrouve quand même bien, et on voit des fois des gens qui s'expriment l'amour chacun d'une façon différente, et on se dit mais ça passe pas, en fait, ils se comprennent pas. Et du coup c'est vachement intéressant parce que ça remet les choses en place, et pour Maï et moi, c'est vrai que du coup on a pu réfléchir, on se dit, ah, c'est vrai que ça passe mieux quand je te dis ça comme ça ou quand je fais ça comme ça, et ça permet de bien remettre la communication, finalement, c'est tout simple. Donc la comparaison elle est assez facile avec les langages naturels, le français, l'anglais, le russe ou tout ce que vous voulez. Et donc, il dit dans son livre, il existe des groupes linguistiques principaux. Le russe, le chinois, l'espagnol, l'anglais, le grec, l'allemand, le français, etc. Nous avons pour la plupart d'entre nous grandi en apprenant la langue de nos parents et de nos proches. Elle est devenue notre langue maternelle ou première langue. Plus tard, il se peut que nous ayons appris d'autres langues moyennant plus d'efforts. Ce sont des langues secondaires. Mais nous comprenons et parlons mieux notre langue natale. C'est dans celle-ci que nous nous sentons le plus à l'aise. Plus nous utilisons une langue secondaire, plus nous avons de la facilité à nous exprimer dans cette langue. Si nous ne parlons que notre langue maternelle et que nous rencontrons une personne qui ne s'exprime que dans sa langue natale, différente de la nôtre, notre communication restera très limitée. Nous devrons faire appel aux gestes, aux bruits, aux dessins, à la matérialisation de nos idées. Nous pourrons certes communiquer, mais de façon gauche et imparfaite. Les différences linguistiques font partie intégrante de la culture humaine. Si nous voulons communiquer efficacement avec des personnes d'autres cultures, nous devons apprendre leur langue. Il en va de même dans le domaine de l'amour. Votre langage d'amour et celui de votre conjoint peuvent être aussi différents que le chinois l'est du français. Vous avez beau essayer d'exprimer votre amour en français, si votre conjoint ne comprend que le chinois, vous ne saurez jamais que vous vous aimez. Donc ça paraît tout bête, mais c'est assez pertinent comme idée, en fait. Et donc il décline ça en 5 catégories, donc on les verra assez rapidement. Je vais essayer de boucler ça aujourd'hui quand même. Donc la première, c'est j'en ai parlé tout à l'heure, c'est les paroles valorisantes. Donc il y a certaines personnes pour qui ça compte plus. Globalement, vous verrez que les 5 catégories, elles nous touchent toutes, mais il y a quand même normalement une catégorie en particulier qui passe mieux et qui est notre langue principale, notre langue natale dans un sens. Et donc si on prend dans les proverbes, proverbe 18 verset 21, ça dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, quiconque l'aime en mangera les fruits. » Et dans proverbe 12 verset 25, « L'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, mais une bonne parole le réjouit. » Et donc vous savez très bien comme moi que en général les compliments, ça motive beaucoup plus que des remontrances. Si à chaque fois que Raphaël tombe, lui dit « T'es nul, tu vas jamais marcher », bah, y a de bonnes chances qu'il marche jamais, peut-être. Mais si on l'encourage, si on dit fais un effort, ou c'est bien, ou t'as déjà fait ça, ben c'est comme ça qu'on le pousse à faire mieux, en fait. C'est beaucoup plus sympa. Et pendant notre formation, on nous a dit qu'en fait, pour faire travailler une équipe, fallait pas la faire travailler sur ses points faibles, mais sur ses points forts. Je me suis dit, c'est idiot. Si un tel y a des points faibles, autant essayer de le faire travailler, le faire s'améliorer, et comme ça on y gagne. Et il nous expliquait que plus ou moins non, que c'était mieux de faire travailler chacun sur ses points forts, parce qu'on réussissait quelque chose et que c'était beaucoup plus valorisant. Et que souvent, en général, le point faible, on l'a déjà travaillé tellement que c'est un peu ce qu'ils nous ont dit, c'est peine perdue déjà. Il y a des gens qui ont déjà essayé pendant longtemps et ça sert à rien de tout le temps travailler sur les points faibles des gens et encore en disant on va y arriver, on va finir par y arriver. Donc les compliments, les choses positives. Je devrais dire c'est bien Raphaël, mais les choses positives, ça fait beaucoup de bien. Et il y a des personnes qui sont très sensibles à ça. Alors des fois, c'est juste de notre nature, comme ça. Et des fois, c'est dû juste au contexte, à l'histoire. Il suffit qu'une personne, pendant toute son enfance, on lui dit t'es nul, ou tu sais pas faire ceci, ou t'es vraiment mauvaise là. Et ben du coup, plus tard, elle sera beaucoup plus sensible quand on dira, c'est bien ce que t'as fait, ça fera encore plus de bien. Donc là, le monsieur raconte, il y a quelques années, j'étais assis à mon bureau, la porte ouverte. Une dame qui passait dans le couloir me demanda, avez-vous une minute à me consacrer? Bien sûr, entrez. Monsieur Chapman, j'ai un problème. Je n'arrive pas à obtenir de mon mari qu'il repeigne notre chambre à coucher. Je le lui demande depuis des mois, j'ai tout essayé, mais en vain. Je fus d'abord tenté de lui répondre, ma brave dame, vous n'êtes pas à la bonne adresse. Je ne dirige pas une entreprise de peinture. Mais je me repris, expliquez-vous. Eh bien, voici, à titre d'exemple, ce qui s'est passé samedi dernier. Vous vous souvenez sans doute que ce jour-là, il a fait exceptionnellement beau. Savez-vous ce que mon mari a trouvé le moyen de faire? Il a passé toute sa journée à laver et à lustrer sa voiture. Alors, que lui avez-vous dit? Je suis sorti et je lui ai déclaré, « Jacques, je ne te comprends vraiment pas. Aujourd'hui aurait été une merveilleuse journée pour peindre la chambre, et tu ne trouves rien de mieux à faire que de bichonner ta voiture ?» Alors le monsieur demande, « A-t-il abandonné sa voiture pour peindre votre chambre à coucher ?»« Non, elle n'est toujours pas repeinte, je ne sais plus quoi faire. » »« Me permettez-vous de poser une question ? N'aimez-vous pas une voiture propre et reluisante ?»« Bien sûr, mais j'aimerais aussi que notre chambre soit remise à neuf. » Êtes-vous certaine que votre mari soit vraiment au courant de votre désir? Absolument, ça fait 9 mois que je le harcèle. Permettez-moi une autre question. Arrive-t-il à votre mari de faire quelque chose de bien? Quoi, par exemple? Sortir les poubelles, laver votre pare-brise de tous les moucherons qui sont collés dessus, faire le plein avant que vous utilisiez la voiture, payer les factures d'électricité, suspendre son manteau au bon endroit. Oui, il veille à cela. Dans ces conditions, j'ai 2 suggestions à vous faire. Premièrement, n'abordez plus la question de la chambre à repeindre. Je le répète, n'en parlez plus. Je ne vois pas en quoi cela peut changer les choses. Vous venez de me dire qu'il connaît votre désir de voir la chambre repeinte. Vous n'avez donc plus besoin de lui rappeler. Il le sait déjà. Ma deuxième proposition est celle-ci. La prochaine fois que votre mari fait quelque chose de bien, exprimez verbalement votre appréciation. S'il sort la poubelle, dites-lui par exemple... Jacques, sache que je suis sensible au fait que tu t'acquittes si régulièrement de cette tâche. Ça fait classe, hein? Gardez-vous de dire, il était temps que tu sortes les poubelles, les mouches étaient sur le point de le faire à ta place. Si vous le voyez remplir le chèque pour payer la facture d'électricité, posez votre main sur son épaule et dites-lui, Jacques, je suis vraiment heureuse que tu t'occupes de cela. J'entends dire qu'il y a des maris qui sont complètement indifférents à ces choses. Sache que je mesure mon bonheur. Chaque fois qu'il fera quelque chose de bien, adressez-lui un compliment verbal. La dame répond, je ne vois pas comment cela repeindra notre chambre à coucher. Vous m'avez demandé un conseil, vous l'avez, faites ce qui vous plaira. Elle n'avait pas l'air contente en sortant. Pourtant, 3 semaines plus tard, elle revient me voir. Ça a marché, m'annonça-t-elle. Elle venait d'apprendre que des compliments verbaux motivent davantage que des remontrances. Et donc il explique après qu'en fait il ne s'agit pas de flatter les gens pour obtenir ce qu'on veut. C'est pas la même chose. C'est juste que... Après, il explique des fois les histoires en plusieurs morceaux. C'est juste que ce monsieur-là était sensible aux paroles d'encouragement, comme ça, aux paroles valorisantes. Et donc, de lui dire sans cesse, repeins la chambre, c'est bon, il le savait, ça, c'est plus à faire. Et par contre, il avait besoin qu'on l'encourage un petit coup, qu'on lui dise quelque chose de bien. Ça lui donne un petit peu d'amour dans son réservoir. Et lui, en échange, il fait quelque chose. Et c'est vrai que ça paraît bizarre, les façons de dire sont un peu, je sais pas si on peut dire un peu pompeux des fois, mais ça fait grand pour eux pour avoir sorti la poubelle, bon. Mais en même temps, bien souvent, on a tendance à faire l'inverse. Les personnes vont faire ça, vont sortir les poubelles tous les jours, jamais il y aura un merci. Et pourtant, c'est une tâche comme une autre et ça a sa valeur. Et bien souvent, on le fait avec les enfants. Quand ils font quelque chose, on leur dit merci. On a tendance à vite donner des paroles. C'est bien. Et au fur et à mesure qu'ils grandissent, on oublie ça et ça se perd. Et pourtant, c'est une façon d'exprimer notre amour, de dire merci pour ça ou de dire tu l'as bien fait ou des choses comme ça. Alors, en fait, tout dépend aussi du ton employé. forcément, on peut des fois dire merci et vouloir dire exactement l'inverse. Donc ça aussi, faut faire attention. Et des fois, c'est juste des malentendus et on dit un merci qui est mal pris et merci, hein. Ça peut être pris comment, ça? C'est un merci qui est pas très merci, quoi, qui est pas très empreint d'amour. Donc ça, c'est un des types, une des façons d'aimer, c'est de valoriser par les paroles. Et ça peut être dire à votre femme qu'elle est belle, ça peut être dire à votre mari qu'il est beau, ça peut être dire aux enfants aussi. Donc ça, je le dis pour les couples, mais en fait, c'est valable pour les enfants, les amis, pour les personnes qui nous entourent. Et juste les valoriser, et ça fait beaucoup, beaucoup de bien aussi à celui qui le reçoit. Une deuxième façon d'exprimer l'amour, c'est les moments de qualité. Alors, en fait, il s'agit juste de faire attention à la personne. C'est passer un moment avec elle, mais pas dans le but de faire quelque chose mais de passer du temps avec elle. Et rien que ça, pour pas mal de gens, ça a beaucoup de valeur. De s'installer 5 minutes à côté, et d'être 5 minutes à côté de la personne. Alors, des fois, on parle en même temps, des fois, on fait autre chose. Mais le but, c'est d'accorder une attention à la personne. Il s'agit pas, par exemple, de s'asseoir à deux sur le canapé et de regarder un film pendant 2 heures. C'est pas un moment de qualité, même si le film est super bien. Le but, c'est pas la télé, c'est l'autre, en fait. Du coup, la télé, c'est pas vraiment le bon plan. Bon. Ça peut être de temps en temps, je veux dire, mais c'est, ça a tendance à capter l'attention, et en fait, le moment de qualité, il est passé avec la télé plutôt qu'avec la personne à côté. Et à ce propos-là, en fait, on voit très facilement la différence entre des jeunes couples et des couples qui datent déjà plus dans un restaurant. Quand on voit les jeunes couples, ils sont pas là pour manger, ils sont là à se tenir la main, à se regarder, et voilà, quoi, c'est que du bonheur, et la nourriture, limite, elle est secondaire. Alors que, bah, finalement, après, avec la durée, des fois, on voit qu'au restaurant, on y va pour la nourriture, parce que c'est bon, quoi. Et on voit la transition aussi en partie, alors c'est vrai que c'est des caricatures, mais globalement, les jeunes mariés, les fiancés, on les voit passer du temps rien que pour être à deux. Ils s'en fichent de ce qu'ils font, ils s'en fichent presque du restaurant. L'idéal, c'est quand même que ce soit bon, hein, tant qu'à faire. Mais le but, c'est de passer du temps à deux et de s'accorder de l'attention, de parler et d'avoir un moment qui est un moment de qualité, quoi. Il explique dans le livre qu'on peut en fait entreprendre n'importe quelle activité à deux et que le but c'est pas l'activité, c'est juste d'être à deux. Des fois pour certains, si les deux sont sportifs, c'est aller se faire une partie de tennis à deux ou je sais pas moi d'un sport quelconque. Ça peut être une partie de jeu de société, enfin peu importe finalement. Hein, si c'est vrai que passer du temps avec quelqu'un, c'est pas forcément s'asseoir à deux et puis voilà, allez, on passe 5 minutes de qualité à deux, c'est parti. Hein. Bon, c'est un peu limite, mais c'est juste trouver une activité qui est un prétexte, simplement, pour passer du temps à deux et rester à deux. Et finalement, quand on est sensible au moment de qualité, comme ça, que c'est notre langage, être séparé, c'est super dur. Si on est séparé, je sais que c'est arrivé quand j'étais parti en congrès la première fois, alors c'est des choses qu'on prend l'habitude après, mais ça nous a fait un déchirement total à Maï et moi de se quitter parce que je partais 3 jours en Bretagne. Et que pendant 3 jours, bah, je serais pas à la maison. Et c'était dur, mais je crois que c'était d'autant plus dur qu'il y a un de nous deux qui est sensible à ça, en fait, à ces moments-là. Et y a des personnes pour qui ce sera beaucoup plus facile parce qu'ils sont beaucoup moins sensibles à ça. Et après, c'est vrai qu'il y a l'habitude qui s'ajoute et quand on a l'habitude de partir régulièrement, bah, c'est une habitude qui se met en place. Et puis, on peut compenser aussi, en fait. Si les personnes sont obligées de se quitter régulièrement, bah on peut s'arranger pour quand on se retrouve, passer des moments où ça va être, plus intense, quoi. On pourra passer plus de temps ensemble et bien réserver les horaires finalement. Alors, la troisième façon d'exprimer l'amour, c'est les cadeaux. Ça, c'est assez connu. Le cadeau, il en donne une définition qui remet peut-être les choses un peu à leur place. Un cadeau est quelque chose que vous pouvez tenir dans votre main en vous disant « Regarde, il a pensé à moi » ou « Elle s'est souvenue de moi ». Il faut penser à la personne en question pour lui offrir un présent. Le cadeau n'en est que le symbole. Sa valeur marchande n'a aucune espèce d'importance. Ce qui compte, c'est qu'on ait pensé à vous. Plus que la pensée venue à l'esprit, c'est la pensée exprimée par le geste qui est l'expression de l'amour. Les mamans se souviennent du jour où leur enfant leur a offert une fleur cueillie dans le jardin. Elles se sentaient aimées, même si elles préféraient que peut-être que la fleur ne soit pas arrachée. C'est bête, mais l'enfant qui revient juste avec un dessin ou juste avec une petite fleur, ça touche beaucoup. Et finalement, c'est ça l'idée du cadeau. C'est pas forcément quelque chose de très cher, mais c'est un symbole de l'amour qu'on a pour l'autre personne. Alors, ça peut poser souci des fois pour les gens qui sont trop dépensiers et qui ont tendance à faire des cadeaux à tire-larigot, j'ai envie de dire. Et du coup, le cadeau perd un peu de sa valeur aussi, finalement. Si c'est tout le temps, et ben, finalement, est-ce que la personne a vraiment pensé à vous en achetant le cadeau ou on ne sait pas trop parce que c'est devenu une habitude et il n'y a plus forcément la même notion d'amour dans le cadeau. Et un des plus beaux cadeaux, finalement, et on en retrouve presque à la Bible encore une fois, c'est le don de soi. Élodie me dit un jour, « Franck, mon mari, préfère le football à moi. » « Qu'est-ce qui vous fait dire cela ?» demandai-je. « Le jour où notre bébé est né, il jouait au foot. Je suis resté seul à l'hôpital toute l'après-midi pendant qu'il pratiquait son sport favori. » « Était-il près de vous lorsque votre enfant est venu au monde ?»« Oui. Il est resté là durant tout l'accouchement, mais 10 minutes après la naissance, il est parti sur le terrain. Cela m'a fait une peine immense. Cette naissance marquait un moment tellement important dans notre vie, j'aurais aimé que nous le vivions ensemble. J'aurais souhaité qu'il reste auprès de moi, mais Franck m'a laissé seul pour aller jouer. Ce mari aurait pu envoyer une douzaine de roses, elle n'aurait certainement pas eu autant d'effet que sa simple présence dans la chambre d'hôpital. » Je dois dire qu'Élodie avait été traumatisée par cette expérience. Le bébé en question avait 15 ans au moment de notre entretien. Mais elle me parla de sa naissance avec autant d'émotion que si elle s'était produite la veille. Je poursuivis donc mon investigation. Est-ce d'après ce seul épisode que vous avez tiré la conclusion que Franck préférait le football à vous ? Oh non ! Le jour des obsèques de ma mère, il a également préféré jouer au football. A-t-il assisté à l'enterrement ? Oui, il est venu, mais dès que la cérémonie a été terminée, il s'est éclipsé pour aller jouer. J'ai eu du mal à l'accepter. Mes frères et sœurs sont venus à la maison, mais mon mari, lui, était sur le terrain de sport. Plus tard, j'interrogeai Franck à propos de ces deux événements. Il comprit tout de suite de quoi je voulais parler. « Je savais qu'elle mettrait ce sujet sur le tapis, me dit-il. J'étais auprès d'elle pendant tout le temps où elle était en travail et lors de l'accouchement. J'ai même pris des photos, j'étais si heureux. J'étais impatient de faire part de cette grande nouvelle à mes copains de l'équipe. Mais quand je suis retourné à l'hôpital le même soir, quelle désillusion. Élodie était en colère contre moi. J'avais du mal à croire ce qu'elle me disait. Je pensais qu'elle aurait dû être fière que j'aille l'annoncer à l'équipe. » Et quand sa mère est morte, elle ne vous a certainement pas dit que j'ai pris des congés une semaine avant sa mort et que j'ai passé cette semaine à son chevet à l'hôpital ou dans sa maison à effectuer des réparations. Après le décès et les obsèques, j'ai estimé avoir accompli mon devoir. J'avais besoin de souffler un peu. J'aime beaucoup le football et je savais que ce sport me détendrait et atténuerait quelque peu la tension dans laquelle j'avais vécu. Je me disais que ma femme trouverait bon que je m'évade un peu. C'est marrant, hein, la façon de voir les choses des deux. Et ça arrive très 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 souvent, en fait, que les deux ont une façon complètement différente de voir les choses. La dame attend finalement un moment de qualité, que le mari soit là avec elle pour passer ces moments-là. Et le mari, il a besoin d'en parler à ses amis, il a besoin d'aller au foot avec ses copains, quoi. Et pourtant, il est content, pour lui, c'est une preuve d'amour d'aller annoncer la naissance à ses collègues. Et donc, ils ont tous les deux une façon de s'exprimer qui est pas la bonne pour l'autre, et du coup, ça passe pas bien. Un quatrième type d'expression de l'amour, c'est les services rendus. En fait, il y a certaines personnes qui sont extrêmement sensibles aux choses qu'on fait pour eux. Et des choses très bêtes, mais quelqu'un qui, si j'étais sensible au service rendu, quelqu'un qui viendrait, je sais pas, m'aider à réparer quelque chose de plomberie, qui va m'aider à faire le repas ou des choses, passer l'aspirateur, des choses des fois toutes bêtes, mais pour certaines personnes, ça prend une valeur qui est énorme. Pour certains, si je passe l'aspirateur tous les jours, ça fera rien du tout. Et si Maï était sensible au service rendu, ben le fait de passer l'aspirateur, je lui rends un service et ça lui fait du bien et c'est une preuve que je l'aime. Il y a des personnes qui sont plus sensibles à ça que d'autres. On l'est tous plus ou moins. Si on laisse notre conjoint faire toutes les tâches ménagères tout seul, forcément que ça se passera pas bien, qu'il soit sensible ou pas à ce type d'amour-là, en fait. Et un exemple biblique de ça, tout simplement, c'est Jésus qui a lavé les pieds de ses disciples. C'était en vrai pas grand-chose, le geste lui-même. Mais c'était tout le symbole, tout l'amour qu'il avait pour ses disciples. C'était, je vous fais ce service-là, je suis votre serviteur. Dans serviteur, on retrouve cette notion de service. Et donc, quand on regardera après, on verra que Dieu, il utilise toutes ses façons d'exprimer l'amour. Il les utilise lui parce qu'il est amour et qu'il n'a aucun souci à parler toutes ces langues-là. Et je trouve que pour cette façon d'exprimer l'amour-là, il faut souvent savoir dépasser les stéréotypes, en fait, sur les hommes et les femmes et leurs rôles respectifs. Ça, je crois que c'est important. On dit, les femmes, elles font ça, les hommes, ils font ça. Et en fait, je pense que quand on arrive à dépasser ça, ça donne encore plus de valeur au service qui est rendu, en fait. Cela fait 20 ans que je le sers. J'ai toujours été à ses petits soins. J'ai été son paillasson, alors que de son côté, il m'ignorait, me maltraitait et m'humiliait devant mes amis et ma famille. Je ne le hais pas, je ne lui souhaite aucun mal, mais il m'écœure et je ne veux plus vivre avec lui. Cette femme avait rendu des services pendant 20 ans, mais n'était pas des expressions de son amour. Elle s'en était acquittée avec des sentiments de peur, de culpabilité et de rancœur. Le paillasson est un objet inanimé. Vous pouvez essuyer vos pieds dessus, le secouer, le battre, en faire tout ce que vous voulez. Il n'a pas de volonté propre. Il peut vous servir, mais ne peut pas vous aimer. Lorsque nous traitons notre conjoint comme un objet, nous excluons d'emblée la relation d'amour. La manipulation par la culpabilité, du style « si tu étais un bon mari, tu ferais ceci pour moi », n'est pas le langage de l'amour. La contrainte par la peur, « fais-le, sinon tu regretteras », ne fait pas intervenir l'amour non plus. Personne ne devrait jamais être traité comme un paillasson. Nous pouvons décider par nous-mêmes de nous mettre au service d'autrui, mais dans ce cas, nous restons des créatures éprouvant des émotions, nourrissant des pensées et des désirs. Donc, il y a une petite limite entre service rendu et puis je deviens l'esclave où je fais tout ce qu'on me demande juste parce qu'il faut le faire, en fait. On peut toujours faire toutes ces façons d'exprimer l'amour, on peut toujours faire toutes ces choses-là sans avoir aucun amour, en fait. Mais il faut mettre l'amour dedans et c'est un moyen d'exprimer l'amour. Donc la dernière façon, c'est le toucher physique. Un exemple biblique, par exemple, c'est Jésus qui a touché les enfants, qui les a pris dans ses bras. Donc vous connaissez le passage, on lui amena des petits enfants afin qu'il les touchât. Mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit, « Laissez venir à moi les petits enfants et ne les en empêchez pas. Car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. » Puis il les prit dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains. Et il y a une valeur au toucher, et c'est vrai que c'est... On le sent souvent dans les moments d'épreuve, en fait, quand il y a des personnes qui nous prennent dans leurs bras ou qui juste même posent leurs mains sur notre épaule et prient avec nous, ou même sans rien dire comme ça. Ça a une valeur qui est énorme et ça montre l'amour de cette personne qui nous soutient dans le moment difficile. Et on sait aussi que c'est important pour les enfants. On a eu souvent, je crois que c'est Paul qui a dit plusieurs fois l'histoire des enfants dans un orphelinat, je sais plus où, dans les pays de l'Est, qui n'étaient pas touchés, donc qui dépérissaient. Ils avaient tout ce qu'il fallait, ils avaient à manger, à boire, ils pouvaient jouer, mais il manquait le toucher, il manquait l'amour. Et ça, c'est très important pour les enfants, mais ça reste très important pour les adultes aussi. Donc on a le toucher physique, donc forcément il y a les relations sexuelles dedans, mais c'est qu'un exemple de tout ce qu'on peut faire, en fait. Ça peut être juste se tenir la main, ça peut être juste l'un contre l'autre, ça peut être un tas de choses, et il y a plein de déclinaisons possibles dans un sens. Donc faut pas limiter à ça, en fait c'est beaucoup plus vaste que ça, l'idée de toucher physiquement et de faire passer l'amour de cette façon-là. Alors, si je vous rappelle les cinq catégories. Donc, on a les paroles valorisantes, les moments de qualité, les cadeaux, les services rendus et le toucher physique. Donc, normalement, si vous prenez ces cinq langues-là, vous pouvez exprimer votre amour. Ça rentrera forcément dans ces cinq catégories-là. Et donc, quelle est l'utilité de ça? Donc, je vous l'ai dit au début, c'est déjà de le déterminer pour la personne que vous avez en face de vous et être capable de lui apporter l'amour de la bonne façon et finalement de pouvoir se comprendre. Si la personne en face de vous est sensible au service rendu, vous avez beau le valoriser comme vous voulez par les paroles, ça fera pas autant d'effet que si vous lui rendez un service effectivement. Et donc c'est toujours bon à savoir de dire bah cette personne-là est sensible de telle manière, je vais lui parler de telle manière. Comme on l'a vu au début en fait avec les langues naturelles. Cette personne-là parle mieux le chinois, ok elle sait parler le français, mais sa langue naturelle c'est le chinois. Je vais lui exprimer en chinois, elle me comprendra mieux. Par contre moi j'aurais du mal à lui exprimer en chinois. Mais avec les langages d'amour finalement c'est... Enfin... Ouais, finalement, dans les deux cas, c'est possible. Dans les deux cas, on peut apprendre une deuxième langue, en fait. C'était ce qui était dit au début. Si moi, je suis sensible au toucher physique, je peux tout à fait apprendre à m'exprimer par les services rendus. Ça me coûtera un effort, parce que c'est pas naturel. Mais je peux travailler, et je peux arriver régulièrement à rendre des services et à exprimer mon amour de cette façon-là. Et je crois que c'est là la difficulté, en fait. C'est pas juste de rendre un service. C'est d'exprimer mon amour en rendant ce service-là. C'est différent que, bon, je sais qu'elle aime bien quand il rend des services, allez, je vais lui passer l'aspirateur, elle sera contente. C'est pas une preuve d'amour, quoi. Et donc, la question qui vient normalement après, c'est comment est-ce que je peux trouver ma façon d'exprimer l'amour? Comment, parce que quand on voit les cinq catégories, c'est pas facile de se caser dedans d'entrée de jeu, en fait. Donc là, il y a tout un chapitre dans le livre, mais je vais résumer. Comment est-ce que je peux trouver ma façon principale d'exprimer mon amour? En répondant peut-être à quelques petites questions, comme comment est-ce que j'exprime le plus souvent mon amour à autrui. Il y a des gens, très facilement, ils vont venir, ils vont vous prendre dans les bras, et peut-être que c'est chez ces gens-là, leur façon d'exprimer l'amour, c'est par le toucher physique avant tout. Il y a des personnes qui, d'entrée de jeu, vont vous rendre des services, vont faire quelque chose pour vous. Et on peut décliner sur les cinq catégories comme ça. Souvent, la façon, notre réflexe pour exprimer notre amour, ça reflète notre première langue, en fait. Et en général, on donne aussi aux autres ce qu'on aime bien recevoir nous-mêmes. Donc si on voit quelqu'un qui exprime beaucoup par les services, eh ben ça peut être une bonne idée d'essayer de lui exprimer notre amour aussi par les services et voir si ça n'a pas un impact d'autant plus fort, en fait. Qu'est-ce qui me fait le plus plaisir? Qu'est-ce que j'apprécie le plus? Est-ce que c'est qu'on m'offre quelque chose, qu'on passe un moment avec moi, ou qu'on me rende un service, qu'on me prenne la main, ou le cinquième, ou qu'on... Je sais plus, j'ai oublié. Qu'on me parle, oui, les paroles valorisantes, c'est vrai. Ou est-ce que, ouais, qu'on me parle et qu'on me dise que ce que j'ai fait là, c'est bien. Ou de quoi est-ce que je me plains le plus souvent? Ça aussi, c'est une bonne indication. Qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce qui est important pour moi? Et si ça me manque, eh ben, je vais l'exprimer. Donc ça, c'est aussi quelque chose. Et donc, à quoi ça sert tout ça? Donc, comme je vous disais, c'est intéressant en fait d'être tous les deux sur la même longueur d'onde, tout simplement. Et ça fait du bien juste de s'accorder un peu et de voir que beaucoup de problèmes de communication, ils reviennent à ça. On a simplement une façon différente de s'exprimer. Et la personne exprime son amour, mais je l'ai pas vu parce que c'était pas dans mon langage à moi. En comprenant aussi notre façon d'exprimer notre amour, ça aide à comprendre aussi tous les problèmes qui surviennent. En fait, comme on connaît nos faiblesses, on sait que sur tel et tel point, on peut travailler et on sait qu'on peut blesser les gens ou on peut mal exprimer notre amour aux gens. Et c'est bon de savoir, moi je m'exprime de telle façon, je sais que sur les autres, des fois je suis pas très doué et il faut que je fasse des efforts, il faut que j'apprenne cette façon-là d'exprimer mon amour. Et donc quelques idées pour terminer. L'auteur explique aussi que l'amour c'est un choix, c'est une décision qu'on prend et c'est pas juste c'est pas quelque chose qui vient naturellement. Et c'est vrai que tant qu'on a le sentiment amoureux, finalement tant qu'on est amoureux, les choses elles sont assez faciles, on n'a pas vraiment de problème de communication en fait, tout ce que fait l'autre est bien interprété. C'est une période qui est très sympa mais qui malheureusement dure pas toute la vie. Et qui, je crois, heureusement, dure pas toute la vie. Parce qu'en fait, on est finalement sur un petit nuage, tout se passe très bien, mais il n'y a pas forcément de travail, il n'y a pas forcément d'efforts fournis. Et je crois que finalement, c'est ça quand on grandit dans notre couple ou même dans la relation avec quelqu'un, il y a après un effort, un travail qui est à faire. Et il ne s'agit pas de dire, bah, avec telle personne, ça passe pas, donc c'est foutu, voilà, je vois pas pourquoi je l'aimerais. Déjà, ça, c'est pas super chrétien. C'est pas l'exemple que nous a donné le Seigneur, sinon ils nous auraient tous laissé tomber. Mais il y a un effort, une décision à prendre pour aimer quelqu'un. Et ça rejoint la parole de Dieu. Dieu a fait l'effort, il a fait le premier pas pour nous aimer, et il attend que nous aussi on aime nos ennemis même. Et donc ça, c'est intéressant de prendre cette décision. C'est vrai qu'avec Maï, on a lu le livre, et après on s'est dit, ben, on n'a pas pris la décision de s'aimer, ça c'était déjà fait, heureusement. Mais dire, ben, je vais faire l'effort de faire ça et de faire de cette façon-là pour toi, parce que je sais que ça passe mieux avec toi comme ça. Et elle, de son côté, a fait les choses de la même façon. Et avec tout le monde, on peut faire ça, en fait. C'est une décision à prendre. C'est pour ça que j'insiste. Il s'agit pas... C'est pas juste qu'il y a des gens qui sont aimables ou pas aimables. Tout le monde est aimable. Si le Seigneur a aimé tout le monde, on doit aimer tout le monde. Simplement, il faut prendre la décision et dire, je vais aimer cette personne, je vais faire l'effort. L'auteur, il donnait une comparaison. C'est vrai qu'il y a des gens qu'on peut difficilement aimer, et on dit on n'a pas envie de faire l'effort de les aimer. Et pourtant, il y a énormément de choses qu'on fait dans notre vie qui demandent un effort et qu'on n'a pas envie de faire et qu'on fait quand même. Et la première, c'est de se lever le matin. C'est pas naturel, c'est une décision qu'on prend tous les matins, je me lève et j'y vais. Elle est motivée par plein de critères différents, hein. Des fois c'est le bébé qui pleure à côté, des fois c'est le travail qui nous appelle. Mais globalement, c'est une décision qu'on prend. On pourrait aussi prendre la décision, je reste dans mon lit, et puis voilà, aujourd'hui je me lève pas. Mais bon, je garantis pas les résultats. Alors je vais finir peut-être avec deux exemples. Ils avaient roulé 3 heures jusqu'à mon bureau. Il était évident que Thierry n'avait pas voulu venir. Christine y avait forcé en le menaçant de le quitter. Je ne suggère jamais cette méthode, mais les gens ne peuvent suivre mes suggestions avant de me connaître. Ils étaient mariés depuis 35 ans et n'avaient jamais rencontré de conseiller conjugal auparavant. Christine fut la première à prendre la parole. « Monsieur Chapman, je veux que vous sachiez 2 choses d'emblée. D'abord, nous n'avons aucun problème d'argent. » Je lisais récemment dans une revue que l'argent est le problème numéro 1 dans le mariage. Ce n'est pas notre cas. Nous avons travaillé tous les deux pendant des années. La maison est payée, les voitures aussi. L'argent n'est absolument pas un problème pour nous. Ensuite, nous ne nous disputons jamais. Ils veulent divorcer, mais ils ne sont jamais disputés. C'est assez marrant, mais... J'entends parfois mes amis me parler des conflits qui les opposent constamment à leur mari. Nous n'avons jamais eu de différends. Je ne me souviens pas de la dernière fois où nous avons élevé la voix. Nous savons tous les deux que les disputes ne résolvent rien. C'est pourquoi nous refusons d'y avoir recours. En tant que conseiller, j'appréciais beaucoup que Christine déblaye le terrain. Je savais ainsi qu'elle voulait rapidement en venir au fait. Il était évident qu'elle avait bien préparé son introduction pour que nous ne perdions pas notre temps à des futilités. Elle voulait sagement gérer son temps. Et elle poursuivit. Voici mon problème. Je ne sens aucun amour de la part de mon mari. La vie est devenue uniquement une routine. Nous nous levons le matin pour aller au travail. Dans l'après-midi, il s'occupe de ses affaires et moi des miennes. Nous dînons généralement ensemble, mais nous n'avons rien à nous dire. Il regarde la télé en mangeant. Après le souper, il musarde un peu au sous-sol, puis remonte et s'endort sur le canapé devant une émission quelconque jusqu'à ce que je le réveille avant qu'il aille se coucher. Notre programme est réglé comme du papier à musique, 5 jours par semaine. Le samedi matin, il va jouer au golf, puis il travaille au jardin l'après-midi. Le soir, nous sortons au restaurant avec un autre couple. Il engage la conversation avec nos amis, mais dès que nous nous retrouvons assis dans la voiture pour rentrer chez nous, il n'a plus rien à dire. Une fois à la maison, il s'installe devant la télé et s'endort jusqu'à l'heure du coucher. Le dimanche matin, nous allons à l'église. Nous y allons tous les dimanches, monsieur Chapman, insista-t-elle. Ensuite, nous sortons manger avec des amis, continua-t-elle. De retour à la maison, il somnole devant le petit écran toute l'après-midi. Le soir, nous grignotons quelque chose de léger et nous montons nous coucher. Voilà comment se déroulent nos semaines. Nous sommes comme des camarades de chambrée qui vivent sous le même toit. Il ne se passe jamais rien entre nous. Je ne ressens aucun amour de sa part. Pas de chaleur, pas de sentiment. Tout est vide, tout est mort. Je ne pense pas pouvoir continuer longtemps ainsi. À ce moment, Christine fondit en larmes. Je lui tendis un mouchoir et tournai mon regard vers Thierry. Ses premières paroles furent « Je ne la comprends pas ». Après un temps de silence, il continua. « J'ai pourtant fait tout ce que je pouvais pour lui montrer que je l'aime, surtout ces deux ou trois dernières années où elle n'a cessé de se plaindre. Rien ne semble avoir d'effet. Quoi que je fasse, elle continue de clamer qu'elle ne se sent pas aimée. Je ne sais plus que faire. » Je voyais que Thierry était désemparé et exaspéré. Je m'enquis. « Qu'avez-vous fait pour témoigner votre amour à Christine ?»« D'abord, j'ai commencé par rentrer du travail avant elle pour préparer le dîner. D'ailleurs, si vous voulez connaître la vérité, le repas est prêt quand elle rentre 4 soirs par semaine. Le 5e soir, nous allons dîner dehors. Après le repas, je lave la vaisselle 3 fois par semaine. Le 4e soir, je me rends à une réunion, mais 3 soirs, je lave la vaisselle dès que le repas est terminé. Je passe l'aspirateur partout, car elle souffre du dos. Je m'occupe du jardin, car elle est allergique au pollen. Je plie le linge dès qu'il sort du sèche-linge. » Il continua à me dire tout ce qu'il accomplissait pour Christine. Quand il eut fini, je me demandais, à quoi s'occupe-t-elle donc? Il ne lui reste pratiquement plus rien à faire. « Je fais tout cela pour lui montrer que je l'aime, » reprit Thierry. « Et elle vient de vous dire ce qu'elle ne cesse de me répéter depuis 2 ou 3 ans, qu'elle ne se sent pas aimée. Je ne sais vraiment pas quoi faire de plus. » « Monsieur Chapman, » intervient Christine, « tout cela est bien beau, mais ce que je voudrais, c'est qu'il s'asseye à côté de moi sur le canapé et qu'il me parle. Nous ne nous disons rien. D'ailleurs, nous ne sommes rien dit pendant 30 ans. Il est toujours occupé à laver la vaisselle, passer l'aspirateur, tondre le gazon. Il est toujours occupé à quelque chose. Mais moi, ce que je veux, c'est qu'il vienne vers moi, qu'il me consacre du temps, qu'il me regarde, qu'il me parle de nous, de notre vie. » Christine pleurait de nouveau, je n'avais aucun doute là-dessus. Le langage d'amour qu'elle comprenait était celui des moments de qualité. Elle pleurait pour attirer l'attention. Elle voulait être traitée comme une personne et non comme un objet. L'activisme de son mari ne comblait pas ses besoins affectifs. En parlant avec Thierry, je me rendis compte que lui non plus ne s'en sentait pas aimé, mais il ne le disait pas, il était résigné. Quand vous êtes marié depuis 35 ans, que tous vos crédits et factures sont payés, qu'espérez-vous encore? Voilà où il en était. Je lui demandais alors, « Décrivez-moi la femme idéale, selon vous. Si vous aviez une femme parfaite, comment serait-elle ?» Pour la première fois, il me regarda droit dans les yeux et me répondit, « Vous voulez vraiment le savoir ?»« Oui, » dis-je. Il se redressa sur le siège et croisa les bras sur sa poitrine. Un large sourire éclairait son visage quand il déclara, « J'en ai rêvé. La femme idéale, ce serait celle qui rentrerait l'après-midi et me préparerait le repas. Je travaillerais dans le jardin et elle m'appellerait lorsque le repas serait prêt. » Après le dîner, elle ferait la vaisselle. Je l'aiderais quelquefois, mais c'est elle qui assumerait cette responsabilité. Elle recoudrait les boutons de ma chemise. Christine ne put se contenir plus longtemps. Se tournant vers son mari, elle lui lança. « Je ne te crois pas. Tu m'as toi-même déclaré que tu aimais cuisiner. » « Cela ne me dérange nullement de cuisiner. Mais Monsieur Chapman m'a demandé ce qui serait idéal. » Je n'eus pas besoin d'en savoir davantage, j'avais compris que le langage d'amour explicite pour Thierry était celui des services rendus. Pourquoi pensez-vous qu'il accomplissait tout cela pour Christine? Parce que cela correspondait à sa façon innée de communiquer son amour. Dans son esprit, c'était la manière de dire à sa femme qu'il l'aimait. Le problème était que Christine ne comprenait pas le langage des services rendus. Pour elle, ce langage ne signifiait pas du tout ce qu'il aurait exprimé pour son mari si elle lui avait rendu des services. Quand Thierry commença à comprendre, ses premiers mots furent « Pourquoi ne m'a-t-on pas dit ces choses il y a 30 ans? J'aurais accepté volontiers de m'asseoir à côté d'elle un moment, comme elle le voulait, au lieu de m'affairer à 1000 et 1 choses. » Il se retourna vers Christine et dit « Pour la première fois de ma vie, je comprends enfin ce que tu voulais dire par « nous ne nous disons rien ». Le sens de ces paroles m'échappait. De mon point de vue, nous nous parlions. Tous les matins, je t'ai demandé « As-tu bien dormi ?» Pour moi, c'était un dialogue. Maintenant, je comprends. Tu souhaites que nous nous installions sur le canapé, que nous nous parlions tous les soirs. Je comprends ce que tu entends par là, et je mesure pourquoi c'est tellement important pour toi. C'est le langage d'amour que tu comprends. Nous commencerons ce soir même. Je te consacrerai ce temps que tu désires tous les jours, tu peux en être sûr. » Christine s'adressa ainsi à son mari. « Ce sera sublime. Cela ne me dérange pas de te faire à manger. Simplement, nous dînerons plus tard, car je quitte mon travail après toi. C'est avec plaisir que je coudrai les boutons de ta chemise. » Jusqu'à présent, tu ne m'as pas donné l'occasion de le faire, car tu les recousais dès qu'ils étaient tombés. Je ferai la vaisselle le restant de mes jours, si cela te donne le sentiment d'être aimé. » Christine et Thierry rentrèrent chez eux et commencèrent à s'aimer, en parlant chacun le langage d'amour auquel l'autre était sensible. En moins de 2 mois, ils vécurent une seconde lune de miel. Ils me téléphonèrent des Bahamas pour me dire qu'un changement radical était intervenu dans leur vie de couple. Je vous garantis pas le voyage aux Bahamas pour tout le monde, hein. Mais c'est un exemple parmi les dizaines qu'il y a dans le livre de personnes qui finalement ont vécu 30 ans l'un à côté de l'autre. Je crois que c'est là le terme, l'un à côté de l'autre, en s'exprimant l'amour tous les deux d'une façon qu'ils comprenaient pas et donc ça donnait rien du tout. Donc c'était voilà, j'espère juste vous avoir donné envie de lire le livre. C'est vrai que c'est pas biblique directement, mais je pense que c'est quelque chose qui fait du bien au couple, qui fait même du bien avec les enfants et les amis qu'on a autour, de comprendre un peu ces choses-là. La classification en 5 catégories, elle vaut ce qu'elle vaut, mais je trouve ça assez pertinent. Donc je vous encourage à essayer de voir un peu comment les gens sont sensibles autour de vous et à exprimer l'amour de cette façon-là. Et je pense que c'est... S'il y a des gens qui se tournent vers le Seigneur, c'est à notre façon d'exprimer l'amour. Alors autant bien le faire, ça conditionne beaucoup de choses. Seigneur, je te remercie pour ce livre, pour cet auteur. Seigneur, tout ce que ça nous a fait du bien à nous en tant que couple. Et Seigneur, on espère que ça portera du fruit, Seigneur, dans ton Église, que ça donnera des couples forts, Seigneur, et solides. Et que tu puisses t'appuyer sur ces choses-là après pour bâtir ton Église, Seigneur, pour faire du bien, pour être un témoignage dans le monde aussi. Seigneur, on voit tellement de facilité à divorcer et tellement peu de gens qui sont stables, Seigneur. Et on te prie que dans l'Église, on soit des modèles, Seigneur, de ce point de vue-là, qu'on soit des modèles d'amour, et Seigneur, que tu puisses remplir notre réservoir à nous, qu'on puisse donner aux autres après en fonction de ce que tu nous as donné, Seigneur. Merci de ce que tu as fait le premier pas, et Seigneur, c'est toi qui as tout fait pour nous. Merci, Seigneur. Amen.